Bonjour à tous. Ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose que j'aime pas faire habituellement. J'aimerais ça parler de ce qu'on pourrait appeler mon don spirituel. C'est une spécialité dans mon expérience. C'est quelque chose que je suis en train de devenir professionnel et je veux parler de la culpabilité. La culpabilité, je la définirais comme ceci dans mes termes à moi. C'est l'art de regarder le plafond en se couchant le soir tout en s'accusant soi-même. À qui ça l'arrive? Et j'ai de longues heures d'expérience. Négativement, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus profond et qui va attaquer quelque chose dans nos vies qu'on appelle positivement l'assurance. Est-ce que je peux avoir l'assurance de mon salut? Et qu'est-ce que ça fait si je ne le ressens pas? Et comment donc rétablir cette assurance dans ma vie? Il y a des auteurs comme Martin Lloyd-Jones qui appellent ça une dépression spirituelle. Les puritains appelaient ça la mélancolie. Je vais utiliser un petit peu les deux indifféremment. Et quand on parle d'assurance, il faut soulever aussi son contraire. Le fait que je ne peux pas sentir cette assurance ou avoir cette assurance. La culpabilité, la mélancolie, la dépression, le manque de joie, c'est un problème chez les chrétiens. En réalité, la Bible elle nous dit que c'est une contradiction. Un chrétien pas heureux, pas joyeux sur la déprime, c'est une contradiction. Et je ne veux pas juste parler de la dépression physique. Mais en même temps, la dépression au niveau physique va avoir des répercussions dans notre vie spirituelle et vice-versa aussi. Et pour étudier ce sujet, j'ai choisi 1 Jean chapitre 3 et on va lire du verset 18 à 24. Mais on va s'attarder surtout sur les versets 18 à 20. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qui nous a été donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et commençons par quelques réflexions sur l'assurance. Les chrétiens ont tôt fait de s'interroger sur notre assurance. Les premiers chrétiens, la persécution est arrivée assez rapidement dans l'Église et ça a semé beaucoup de questionnements. Et il y avait cette possibilité de vouloir retourner à leur ancienne croyance. La tentation du péché, les faux docteurs qui commencent à entrer dans l'Église, et Jean veut écrire contre ces personnes aussi qui entrent dans l'Église et qui veulent changer le message de Jésus. Et donc, les chrétiens s'interrogent sur ça. Et dans l'histoire, il y a 4 positions souvent qu'on amène qui nous parlent de l'assurance du croyant. La première position, c'est le catholicisme romain. Catholicisme romain, pour eux, l'assurance, la sécurité ou le sentiment de sécurité engendre des problèmes. Ce n'est pas désirable, c'est dangereux. Et depuis Thomas d'Aquin et toute l'époque médiévale, l'assurance est inatteignable. Pourquoi? On met de l'avant une théologie qui met les œuvres comme source de notre salut. Est-ce que je n'ai fait assez? Je n'ai-tu pas fait assez? Et donc, l'assurance est inatteignable. Et dans ce contexte, Martin Luther réagit. Et Martin Luther a soulevé un grand défi pour cette Église, parce que pour la première fois, l'assurance était basée sur la parole, les promesses que Dieu nous a faites. Entre autres, tirées de 1 Jean 5,13, où il fait son exposé, « Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et ça a été un choc pour les réformateurs d'apprendre qu'on peut avoir l'assurance. Et Luther liait la foi et l'assurance ensemble. Et par la suite, Jean Calvin est venu. Jean Calvin, lui, tout comme Luther, mettait l'emphase sur le sacrifice de Jésus sur la croix comme base, comme fondement de notre assurance dans notre salut. Mais Calvin ajoute 2 autres choses. L'assurance est aussi, nous pousse à un changement de vie, 2e pilier, et il ajoute un 3e pilier qui se trouve à être l'assurance qui est poussée par le Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans son exposé sur Romains 8,15, où avec l'esprit d'adoption qui crie à notre esprit, « Abba Père, qu'on lui appartient. » Mais le gros de l'exposé est encore une fois sur qu'est-ce que Jésus a fait. Mais le Saint-Esprit vient ajouter quelque chose qui n'était pas encore véhiculé dans l'Église. Et vient une 4e voie qui dit complètement le contraire. Jacobus Arminius, dans les années 1600, qui lui, sa théologie l'a amené dans sa formulation à dire qu'on pouvait perdre notre salut. Et donc l'assurance, c'était seulement pour le moment présent, mais ne résultait pas dans cette assurance de notre salut à la fin des temps. Certains mouvements charismatiques, ou encore les témoins de Jéhovah, par exemple, fondent leur théologie sur Arminius. Et où sommes-nous aujourd'hui? La première lettre de Jean, c'est un bon point de départ, parce que le thème central de 1 Jean, c'est l'assurance du croyant. Il n'y a pas une lettre dans le Nouveau Testament ou un écrit dans la Bible qui parle aussi directement et clairement, de façon explicite, du sujet de l'assurance du salut. Et aujourd'hui, on constate que Jean soulève 3 tests pour les chrétiens. Le vrai chrétien va croire quelques doctrines essentielles. Et ça, on voit ces 3 tests qui sont répartis un petit peu partout dans cette lettre. Le vrai chrétien va avoir un témoignage marqué par l'obéissance. Et le vrai chrétien va aimer. Et avec ça, les études aujourd'hui nous amènent à mettre un 4e pilier à l'assurance du salut. Le meilleur écrit, probablement, c'est D.A. Carson sur l'assurance. Si vous voulez, la référence est gratuite sur Internet, je vous la donnerai. Et ce 4e pilier, c'est la persévérance. Ce qui marque le croyant, c'est qu'il persévère. Et 1 Jean 2, 18 à 19 est souvent les versets qu'on va apporter. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière, comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et donc, il semble dire qu'il y a des personnes qui, probablement, se sont fait baptiser, qui ont participé à la louange, à l'adoration, mais qui sont sortis de l'Église et qu'ils ne faisaient pas partie des nôtres parce qu'ils ont la marque, c'était la persévérance, et eux ne persévéraient pas. Mais Jean, quand même, dans sa lettre, laisse de la place pour montrer qu'un croyant peut tomber. Et il faut aussi, nous, se garder de la place pour dire qu'un croyant peut tomber. Et donc, il ne faut pas rendre absolu que tous les croyants qui pêchent ne sont pas sauvés. Mais quand même, la marque du chrétien, c'est la persévérance. Et malgré ça, bien, il y a des doutes qui peuvent arriver. Et dans notre passage ici, il semble dire à des croyants, à mes petits-enfants, ne ment pas, puis notre cœur qui nous accuse, il semble dire qu'il y a la possibilité qu'on n'ait pas cette assurance dans notre vie. Et aujourd'hui, bien, on va traiter ce sujet comme la médecine, les symptômes, les causes et les solutions. Si mon message porte le thème, le titre, si je ne ressens pas l'amour de Dieu, c'est parce que Jean, dans son passage, semble nous dire environ ceci. Il est possible que vous ne sentiez pas l'amour de Dieu, et l'une de ses raisons, c'est que votre cœur vous accuse, vous condamne. Et c'est pratiquement une expression qui désigne la culpabilité. Mais d'où vient ce doute, d'où vient cette condamnation, cette culpabilité qu'on peut avoir, et comment que ça fonctionne? Il y a deux notions qu'on doit comprendre dans la culpabilité. En fait, il y a deux domaines dans lequel le mot culpabilité prend tout son sens. Le premier domaine, la culpabilité, les symptômes. En droit, la culpabilité, c'est la reconnaissance d'avoir fait une faute. En médecine, la culpabilité, c'est la tendance à l'auto-analyse et à l'auto-récrimination. Quand on veut donner un diagnostic en psychologie d'une dépression, un des symptômes, et on s'assure d'en avoir au moins 5 sur 12 à peu près, c'est que j'ai une tendance disproportionnée à m'accuser, à me culpabiliser. Et comment ça fonctionne? Et je suis certain que je ne suis pas tout seul qui vit des choses comme ça. Et ça fonctionne environ comme ceci. Je commence, il y a une petite voix qui se fait aller dans ma tête, et puis là, mes pensées s'arrêtent sur quelque chose de négatif que j'ai fait ou que j'ai pensé. Et puis mes pensées, ma conscience se tourne vers ces pensées et puis je commence à avoir ce sentiment désagréable que j'ai mal fait. Et puis je commence à faire une introspection. On s'examine et dans toute cette analyse, les émotions négatives s'en viennent puis ça focalise mes pensées. Et notre texte nous dit, notre cœur nous condamne. Et s'il nous condamne, c'est souvent parce qu'on est condamnable. Mais ça devient excessif. Et si vous êtes comme moi, on jumelle ça à de la rancune pour faire durer le plaisir une semaine, deux semaines ou des années. Et puis à un moment donné, on regarde le plafond puis on se dit, coudonc, ça marche-tu le christianisme? Et là, il y a le fruit de notre culpabilité qui arrive, je peux commencer à douter. Et on accumule ces réflexions, on se sent sale. Est-ce que je suis chrétien? Ça marche-tu, ça? Je suis supposé être libéré. C'est le Seigneur, il me semble qu'il disait qu'il nous avait libérés, mais là, j'ai tendance à accumuler ces pensées-là, puis là, ça ne semble pas fonctionner. Puis on se trouve pitoyable. Et de façon subtile, je commence à moins m'approcher de Dieu. Je lis moins la parole. Et peut-être que je me compare à d'autres chrétiens. Ah, lui, c'est un chrétien, il est spirituel. Moi, regarde-moi. Tu sais, puis là, toutes ces pensées-là viennent. Puis finalement, est-ce que je suis chrétien? Puis maintenant, on se regarde dans le miroir, quand on lâche notre plafond, puis on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et ces pensées qu'on a, ça varie selon l'intensité puis la endurée chez une personne. Et la dépression, c'est un trouble de l'humeur. Classé dans les troubles de l'humeur. Je suis de mauvaise humeur, donc c'est un peu une illustration, mais poussé de façon régulière à l'extrême. Et qui dit trouble de l'humeur dit problèmes sociaux. Alors, comment aimer les frères? Alors, je commence à lâcher le service dans l'Église. Et si vous avez des choses comme ça à différents degrés, c'est peut-être le signe justement que vous êtes en dépression spirituelle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette introspection? Ce genre d'introspection s'examine soi-même. Puis dans notre examination, c'est que ça devient disproportionné que je me focus sur mes propres problèmes. Et quand on regarde une personne, ça peut être marqué par plusieurs choses, comme par exemple, il y a une tendance toujours à parler de lui-même. Et en parlant de lui-même toujours, on peut poser la question « Pourquoi? » Mais dans son contraire, il y a des personnes qui, eux, vont jamais rien dire, vont avoir tendance à tout accumuler, tout ce qui se passe. Et le symptôme de la dépression, c'est une analyse disproportionnée, c'est un manque d'équilibre. Suis-je toujours en train de parler de moi? Puis qu'en fin de compte, on ne voit jamais la joie de votre salut, on peut se poser des questions. Et ça, ça engendre des troubles sociaux, des troubles dans notre Église, de manque d'amour. Mais pourquoi faire référence à la dépression et ses symptômes dans la question de l'assurance du salut? Parce que si je laisse le doute ou la culpabilité m'envahir, une des premières choses qui est attaquée, c'est notre salut. Est-ce que je crois pour rien? Dans le diagnostic de la dépression en psychologie, on va regarder plusieurs facteurs. Et la culpabilité, c'est seulement un de ces facteurs. Et je ne veux pas rendre absolu, il y a des personnes qui sont habilitées à diagnostiquer la dépression. Mais quand même, on est capable d'observer assez facilement la dépression chez une personne. Et l'analogie est tellement forte qu'on peut faire l'illustration en termes spirituels, la dépression spirituelle. Et même dans la dépression spirituelle, on peut voir des répercussions dans notre domaine physique. Et quelles sont les causes et les solutions? Martin Lloyd-Jones, qui est un prédicateur au 20e siècle, il est décédé en 83, qui était médecin, et il a laissé la médecine pour proclamer l'Évangile. Il était responsable d'une grosse église à Westminster. Et puis, lui, il a écrit un livre, parce que lui, quand il a écrit son livre, il sortait de la guerre. Et ce qui marquait le christianisme, c'était une perte de joie. Et on commençait à parler de dépression dans la santé. Et lui a publié son livre avant même que les médicaments sur la dépression apparaissent dans les années 60. Et lui nous dit qu'en tant que médecin, qu'il y a plusieurs causes. Première cause qu'il nous donne, c'est le tempérament. Le tempérament chez une personne. Et lui, il distingue entre deux types. Il y a les introvertis et les extrovertis. Et la culpabilité, la dépression a tendance à affecter surtout les personnes qui ont tendance à s'enfermer sur eux-mêmes. On s'examine soi-même et ce n'est pas toujours mauvais. Mais quand ça devient disproportionné, c'est parce qu'on a un problème. Et la deuxième cause qu'il nous dit, et il nous dit que ça peut surprendre, c'est la condition physique. Martin Lloyd-Jones, quand il a publié ses études, les antidépresseurs n'étaient pas arrivés encore. Mais il se rendait compte que comment qu'on vit spirituellement va avoir des répercussions dans notre domaine physique, dans notre santé, et vice-versa. Et même avant Martin Lloyd-Jones, Richard Baxter, qui est un puritain des années 1600, avait déjà remarqué ça. Et dans un de ses écrits sur la mélancolie, ce que nous, on nomme la dépression, il notait effectivement que la santé physique va jouer sur notre domaine spirituel et vice-versa. Et j'aime le dicton « un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain ». On peut faire les deux parce que même les médecins aujourd'hui admettent que l'esprit joue sur notre santé physique. Prenez par exemple un des kinésiologues de formation. Et dans la dépression, une des choses qu'on suggère à des personnes, c'est aller marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre la santé physique puis la santé de notre esprit, de notre âme. Et le fait de mentionner qu'il y a plusieurs causes, et ce n'est pas les seules parce qu'on va en voir d'autres, nous amène à penser que la solution va dépendre aussi des causes que les personnes vont subir. Et dans notre texte aujourd'hui, on va en traiter trois. Premièrement, le manque d'amour. Ça peut être considéré comme un symptôme. Notre texte, particulièrement ces versets, s'insère dans son contexte, dans un argument où Jean veut montrer que Dieu est amour. Et à cause que Dieu est amour, il nous donne son esprit qui va nous donner la capacité d'aimer les autres et de respecter les commandements, donc de persévérer. Et à travers les tests qu'il nous propose, le test de l'amour, de la doctrine et du témoignage, on voit ces choses-là. Et dans le contexte immédiat, on lit le verset 18 et 19 encore à nouveau. « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. » Sincère, ces passages dans l'argument pour démontrer que Dieu est amour. Mais le verset 19 commence par les termes « par là ». Donc, il réfère directement au verset qui le précède. Et ce qui précède, c'est un appel inconditionnel et explicite à aimer les frères et sœurs. Autrement dit, n'aimons pas seulement en parole, parce que ça, c'est facile. C'est facile de faire appel à l'amour, mais aimons en action, dans la vérité. Soyons pas des hypocrites qui disent, mais qui pratiquons pas. La manifestation des actes constitue la réalité de notre amour qu'on a reçu chez le croyant. Et le verset 19 veut montrer deux choses. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, mais aussi, quand on connaît qu'on est de la vérité, on apaise notre cœur devant Dieu. Manifester l'amour en parole et en acte permet de connaître notre identité en tant que croyant, en tant que communauté qui aime. L'assurance du chrétien est fondée, premièrement, les termes qui sont ici réfèrent directement à Jésus. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et l'introduction et la conclusion de la première lettre de Jean, c'est que Jésus est le véritable. Et l'identité que nous avons en tant que croyants, c'est fondée sur Jésus-Christ, premier pilier. Ce que nous sommes est proclamé par ce que nous faisons et comment nous nous comportons. Et la chose qui est essentielle et évidemment vraie des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas comme le monde. L'appel à aimer de façon pratique est utile dans notre combat contre la culpabilité et contre la dépression. Pourquoi? Parce qu'elle porte nos pensées vers autre chose que nous-mêmes, vers Jésus qui s'est donné pour nous. C'est l'application de l'Évangile dans le cœur du croyant. Il nous a rachetés pour nous faire participer à sa joie. Jésus priait pour ça dans les Évangiles. Il priait pour ça. Et d'ailleurs, le but de Jean est rendu, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit complète. Donc, il y a cette possibilité que notre joie soit complète et il écrit ces choses pour qu'on vive cette joie en tant que croyant. Et de regarder à Jésus favorise des meilleurs sentiments que de se regarder soi-même, que de toujours parler de notre culpabilité, de nos problèmes, ou de jamais rien dire et d'accumuler ça, et d'accumuler ça, et d'accumuler ça. Puis à un moment donné, on regarde le plafond puis le miroir, puis on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible nous dit, aime Christ et regarde à lui. Ce qui importe, c'est que c'est un amour surnaturel, poussé par l'Esprit dans le croyant. C'est un amour qui nous montre qu'on lui appartient. Verset 24, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Il nous donne son esprit, et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. » C'est un amour qui nous est infusé, en quelque sorte, par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'aimer comme ça, d'être transformé comme ça dans cet amour-là. Pas des désirs excessifs de remplir mes propres besoins, de combler mes propres besoins égocentrés. Mais un des remèdes que Jean nous dit, arrêtez de regarder à ça et regardez Christ. Mais l'argument n'arrête pas là parce qu'il amène un autre problème qui marque le croyant, la culpabilité. Au verset 20, on lit, de quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Quand notre cœur nous condamne, qu'on se sent coupable, que faire? Et la solution de Jean est dans la deuxième portion du verset, « Dieu est plus grand que votre cœur et connaît tout. » Ça semble pas évident. Et dans beaucoup de commentateurs, et j'ai vérifié beaucoup de commentateurs aussi, et il semble que c'est le verset le plus difficile à interpréter dans 1 Jean. Deux raisons sont avancées. Le langage dans le grec semble très difficile Et la deuxième, c'est qu'on ne semble pas saisir ce que Jean est en train de nous dire dans le combat, justement, sur la culpabilité et la place que ça a dans la construction de son argument plus grand, à savoir que Dieu est amour. Et ça l'amène à un auteur que j'ai lu qui disait que ce verset est une preuve de l'inhabilité de Jean à construire une argumentation cohérente. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et êtes-vous d'accord avec ça? Faisons quelques observations. Premièrement, dans le verset 19, 20 et 21, le terme « cœur » revient 4 fois. La seule mention du terme « cœur » dans 1 Jean, c'est dans ces 3 versets. Ce terme, on le traduit souvent de quelque manière que notre cœur ou l'équivalent de conscience. Notre conscience nous accuse. Mais on ne peut pas limiter le mot « cœur » à simplement le terme « conscience ». Parce que quand la Bible utilise le terme « cœur », il désigne notre personne dans notre entier. Et donc, on ne peut pas dire « notre conscience nous condamne » puis on met de côté les émotions puis notre volonté. Non, non. Quand la Bible utilise ce terme, c'est toujours pour souligner notre personne en entier. Et donc, la conscience joue un rôle important dans nos émotions et les émotions vont affecter aussi notre conscience. Mais en même temps, ce terme parle de nos émotions, de notre volonté, mais aussi de notre système de valeurs en tant que personne. Et donc, on ne peut pas limiter ce passage simplement à notre conscience, parce qu'il veut souligner plusieurs choses. 4 fois, ce terme revient. Deuxième observation. De quelque manière que notre cœur nous condamne. C'est comme s'il nous dit que ça va être inévitable. Votre cœur, éventuellement, va vous condamner. Et c'est donc important qu'on comprenne ce qu'il veut dire présentement. Mais en même temps, troisième observation, de quelque manière. Il peut avoir plusieurs manières que votre cœur vous condamne. Et Jean est conscient qu'il ne peut pas limiter à seulement 3 problèmes dans la vie d'un croyant. Il y en a peut-être plus que ça. Mais présentement, il parle de celle-là. Et quatrième observation, c'est que dans notre texte, l'emphase est sur la condamnation qui revient 2 fois dans le verset 20 et 21. Notre cœur nous condamne, mais s'il ne nous condamne pas, on a de l'assurance. La conscience, c'est un dispositif donné par Dieu, je cite John MacArthur, comme système d'alarme par lequel Dieu déclenche chez la personne un sentiment de culpabilité qui est destiné à l'amener à faire face à son péché ou à la situation. G.I. Packer nous dit que, en rappelant des textes puritains, que la conscience qui nous condamne est en quelque sorte un signe du jugement futur. Et on le sait même chez les inconvertis. Et ils le savent eux aussi. Mais dans l'immédiat, la condamnation que notre cœur peut avoir vient du fait que je réalise le verset 18, à savoir que j'ai manqué d'amour. Et parce que je manque d'amour, qui se trouve à être la marque du chrétien, je commence à m'accuser moi-même. Et la question qui surgit dans nos têtes concerne donc la question de notre salut, concerne la question de notre véritable foi et concerne par conséquent notre assurance d'avoir le salut. Si je suis chrétien, je ne dois pas faire ça. Je dois agir comme ça. Je n'agis pas comme ça, donc suis-je chrétien? C'est un peu l'argument que Jean il soulève. Et à cause que j'évalue mon manque d'amour, mon cœur agit comme juge, puis je m'accuse. On est coupable. Et la réponse de Jean, c'est celle-ci. Dieu est plus grand que votre cœur et connaît tout. Le problème vient du manque d'équilibre entre deux notions. La souveraineté de Dieu et notre responsabilité envers le péché. c'est une erreur théologique qu'on a tendance à avoir qui, de façon subtile, diminue la capacité de Jésus à nous libérer. Dans ce simple petit bout de phrase, Jean nous montre deux choses. Un, Dieu est grand. Deux, c'est que la grandeur de Dieu est importante dans notre combat contre la culpabilité puis contre la dépression. Burge nous dit, nous ne regardons pas dans nos cœurs pour voir si nous nous sentons en sécurité. Ensuite, on utilise cela comme preuve de notre sécurité. Si notre conscience nous condamne, Dieu l'emporte sur le verdict. Et Colin Cruz ajoute, la déclaration « Dieu est plus grand que notre cœur » dans ce contexte semble signifier que Dieu ne partage pas la méchanceté qui est si souvent trouvée dans le cœur des humains. Deux choses. Dieu est grand, mais en même temps, ça nous aide dans notre combat de savoir ça. Pourquoi? Parce que en final, c'est pas notre cœur qui va nous juger, c'est Christ qui a payé pour nous. Premier pilier. Et ces deux vérités devraient nous encourager dans notre combat en nous rappelant justement qu'on n'est pas l'ultime juge de notre salut. L'assurance est fondée sur Jésus, non sur nous-mêmes, parce qu'au fond, la seule chose qu'on peut faire, c'est s'accuser puis se condamner. Vous ne sentez pas l'amour de Dieu? Vous sentez juste la culpabilité? Ou ça revient de façon fréquente? Ben, regardez à Jésus. Le troisième problème qu'on voit dans Jean, c'est le péché. Je vais résumer le péché avec le dernier verset de cette lettre. Parce que dans la suite du texte, il nous dit qu'on obéit à ses commandements, et en même temps, celui qui ne respecte pas ses commandements, il fait un péché. Puis à la fin, il y a ce petit verset, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ce verset fait pratiquement non-sens dans l'évangile, dans cette lettre de Jean. Parce qu'un Jean n'a jamais parlé de l'idolâtrie dans sa lettre. Mais le péché est important. Richard Baxter nous dit ceci. De façon plus générale, il y a d'autres causes à la mélancolie, on en a vu. Mais certaines des causes les plus communes sont l'impatience, le mécontentement et le soin provenant d'un amour coupable envers les choses corporelles et d'un manque de soumission à la volonté de Dieu, de ma confiance en lui. Nous prenons facilement du ciel seulement la portion satisfaisante. Et toutes les personnes qui ont prêché, que j'ai vu, qui prêchent contre la dépression spirituelle, il suffit de regarder dans la Bible quand on manque d'assurance. Tous les textes qui parlent du manque d'assurance souvent proviennent d'une vie marquée par le péché. Mais faisons garde. C'est pas parce qu'on a des doutes et qu'on se sent coupable sur certaines choses qu'il faut dire invariablement « cette personne vit dans le péché ». Mais ça peut être une des causes, et c'est souvent celle-là qu'on constate dans l'Église. Et Jean nous dit dans ce passage, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Et si ça ne fait pas de sens, parce qu'il n'a jamais parlé d'idolâtrie, il y a deux possibilités que les commentateurs vont dire. La première, c'est que Jean, il a manqué de temps, il voulait commencer un autre sujet. Bon, c'est pas très crédible. Et l'autre possibilité, c'est qu'il est en train de résumer la lettre dans son entier. Et toutes ces exhortations à aimer le péché, à tendre puis à donner notre affection vers le péché est résumée dans ceci. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et c'est avec raison que Lloyd-Jones nous donne la définition de l'idolâtrie. Une idole est quoi que ce soit qui a un contrôle dans ma vie tel qu'elle attise mes émotions, m'éveille, m'attire si facilement que je lui donne de mon temps, mon attention, mon énergie, et mon argent est cela sans effort. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir une idole dans notre vie. Et si ça l'arrive et que notre cœur commence à se condamner soi-même, c'est parce que mon amour a changé de Jésus pour autre chose. Et la Bible appelle ça l'idolâtrie. L'idolâtrie concerne essentiellement ce que nous aimons qui remplace Jésus. quel est le remède? Repentez-vous. Parce que la repentance requiert que l'on change notre objet d'amour. On a tendance à dire que la repentance, tu fais un 180 degrés, puis là, tu confesses tes péchés, puis tu changes de vie. Oui, mais tu changes aussi ce sur quoi tu portes ton amour. Mais 1 Jean 5, 21, quand il parle d'idolâtrie, le connecte très intimement au verset qui le précède. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Voici encore l'assurance. Nous le sommes en son Fils Jésus-Christ, premier pilier. C'est lui qui est le véritable et la vie éternelle. Donc, petits enfants, vous chrétiens, petits enfants, parle à des chrétiens, gardez-vous des idoles. Parce que les idoles vous emportent dans votre amour, dans vos affections et vous éloignent de quoi? De qui est Jésus? La culpabilité, c'est une erreur théologique qui nous amène à diminuer qui est Jésus. Et notre texte nous dit quoi? Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Comment? En étant en Christ. La repentance. On a cette conviction première qu'on a fait quelque chose de coupable. Et nous sommes coupables. On le confesse. On a une repentance, on change notre objet d'amour pour le porter sur Christ parce qu'on regarde à lui. On restitue les relations qui ne sont pas juste entre nous autres, mais envers Dieu aussi. Et quand la réconciliation est présente, réjouissez-vous. On est appelé à être heureux puis à avoir le bonheur. Je vous écris ces choses afin que notre joie soit complète. Pour ça qu'il l'écrit. Et les idoles, bien, fait qu'on va perdre cette joie que nous avions en Jésus-Christ. Mettre les pièces de ce puzzle ensemble. L'assurance est ancrée dans l'Écriture. Le manque d'amour, la culpabilité, le péché vont à l'encontre de cette assurance. Et c'est des symptômes de ce qu'on peut nommer une dépression spirituelle. Mais j'aimerais quand même revenir, pour terminer, sur la relation d'amour en lien avec l'assurance. Comme les réformateurs, on a établi 4 piliers. Et Jean dresse un argument qui montre que Dieu est amour. Mais on peut ne pas le ressentir. 4 piliers. Jésus-Christ et sa croix. C'est notre fondement, notre fondation. Et ça, bien, va déboucher sur un changement de vie. Et le Saint-Esprit va nous pousser cette conviction qu'on lui appartient. Et le chrétien va persévérer parce que le croyant, Dieu va faire cette œuvre par son esprit dans le croyant. Le Nouveau Testament répète de plusieurs manières et de plusieurs façons qu'on doit focusser, regarder à la croix pour 2 choses. 1, parce que c'est l'image de l'horreur de notre péché, mais aussi, c'est que c'est la grandeur de l'amour pour Jésus, pour nous. Et le texte s'insère dans un argument qui veut démontrer que Dieu est amour et que ça débouche dans la vie du croyant. Et on peut le résumer dans 3 versets. Verset 16. Et nos versets s'insèrent entre les versets que je vais citer. « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il nous a donné sa vie pour nous. » Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Et en 4:8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et au verset 10, « Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Voyez le langage du premier pilier. Jésus, sa croix qui prend notre péché, puis il nous dit « focus là-dessus » parce que Dieu est plus grand que votre cœur, qui lui va vous condamner. Et on regarde à ça. Et on peut regarder à ça parce que Dieu est amour. Et dans son amour, Dieu manifeste quoi? Qu'il donne son Fils pour notre péché. Elle nous invite à apprécier la croix, les perfections de Jésus. Et quand la Bible nous dit que Dieu est amour, Il est en train de nous dire que c'est dans la nature même de Dieu de manifester son amour, comment? En donnant son Fils, afin qu'on puisse participer à sa gloire. C'est dans la nature de Dieu. Dieu est amour. C'est le fondement de notre assurance. Mais de façon négative, Jean nous dit en 4:19, « Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. » De façon négative, il est en train de nous dire que s'il ne nous aurait pas aimés, nous ne pourrions pas l'aimer. Ce n'est pas naturel, l'amour. Vous ne le ressentez pas? C'est normal. Ce n'est pas naturel. La solution, à regarder, à Christ. Mais Jean nous invite, ceux qui ont reçu l'Esprit, à aimer les frères. Deuxième pilier. Un changement de vie. Mais c'est un changement de vie qui n'est pas basé sur mes propres efforts, mais qui est basé sur l'équilibre entre notre responsabilité pour le péché, mais de l'œuvre de Dieu dans le croyant. Et c'est un amour, quand il est manifeste, qui nous donne de l'assurance envers Dieu. Voici pourquoi il nous invite à aimer les frères et à considérer que Dieu, c'est parce qu'il est plus grand que nous. Et comme ce n'est pas naturel, c'est là qu'il faut que je regarde. Deuxième pilier, le changement de vie. On était pécheurs et on est appelé à avoir une vie transformée par l'amour. Pourquoi? Parce qu'il se donne à nous pour nous transformer dans cet amour. Juste pour appuyer ça, ça me vient à l'esprit. Romains 1, 7. Il nous dit, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Dieu nous aime. Mais en même temps, la plus belle promesse dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc, en même temps, Dieu nous aime et le croyant aime Dieu. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux? On voit au chapitre 5, verset 5, Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On regarde à Dieu parce que c'est lui qui peut nous donner ce genre d'amour, de se donner pour les autres, parce que naturellement, on ne l'a pas. Et donc, c'est appuyé par les Écritures aussi. L'assurance est poussée par le Saint-Esprit. Troisième pilier, c'est l'Esprit qui pousse en nous cet amour vers les autres. C'est pour ça que ça peut nous donner de l'assurance. Vous voyez John Piper, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien de plus excitant que de connaître l'amour de Dieu si profondément qu'elle se répand dans nos relations. Et une des raisons, parce qu'on va avoir de l'assurance envers Dieu. Et la marque du véritable croyant, c'est parce que Dieu fait cette œuvre de grâce continuellement, renouvelée par l'Esprit, dans la vie du croyant, ce qu'on appelle la persévérance. Et pourquoi parler de la persévérance et finalement des quatre piliers si c'est l'œuvre de Dieu? On n'a rien à faire. J'ai juste à attendre par magie que le Saint-Esprit applique tout ça. Pourquoi rappeler ces choses? Si c'est surnaturel, c'est parce qu'en proclamant ça, l'Esprit va prendre sa parole et l'appliquer dans votre cœur. L'étude de la parole est importante. Pourquoi? Parce qu'il prend sa parole. Le seul outil mortel qu'on a dans les armes du chrétien, c'est l'épée, qui est l'épée de l'Esprit, qui va trancher l'âme et moi, l'Hébreu 4:12 aussi. De nous, c'est l'épée de l'Esprit pour l'appliquer dans notre propre vie. C'est pour ça qu'il faut rappeler ces choses. Et tout notre passage débouche sur une relation intime dans la prière au verset 21 à 24. L'autre remède, sans rentrer dans tous les détails, l'amour en action, porter les regards sur sa croix et Jésus, la repentance et la confession. Et là, il parle à des chrétiens. nous devrions être les spécialistes de la repentance et de la confession de nos péchés. Ça débouche sur une vie spirituelle, de relation personnelle avec Dieu. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et si on a cette assurance, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Pas parce que vous êtes un super chrétien, pas parce que vous n'êtes pas capable de vous approcher, ce n'est pas fondé sur vos œuvres. Et même si ça vient de façon subtile et que ça change ça dans votre cœur et que vous vous condamnez, approchez-vous de Dieu avec repentance. Et aimez les frères, les sœurs dans l'Église. Et ça va être la marque du chrétien qui va se répercuter partout dans le monde. Le plus grand témoignage qu'on peut donner au monde, c'est si nous nous aimons les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais ça, ce n'est pas naturel. Mais il faut se le rappeler. On va prier. Oh Seigneur Dieu, tu prends ta parole, tu veux l'appliquer dans notre cœur. Ta parole nous enseigne un équilibre entre ta souveraineté et notre responsabilité envers notre péché, notre culpabilité. Prends nos cœurs. On veut te donner libre accès à nos cœurs et on veut confesser que sans toi, la seule chose que mon cœur peut faire, c'est me condamner. Mais toi, tu es plus grand que notre cœur. Et on veut porter les regards vers toi et on ne veut pas diminuer l'efficacité de ton sacrifice pour nous, Seigneur. Et je veux intercéder pour les personnes, peut-être qui se trouvent ici, qui subissent de la culpabilité disproportionnée. Des troubles de santé physique qui se répercutent dans leur vie spirituelle et des troubles spirituels qui se répercutent dans leur vie physique. Et je veux intercéder pour toutes les personnes qui sont ici, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, à avoir cette assurance, Seigneur. Parce que tu nous le promets. Tu nous le promets, Seigneur. Et s'il y a des personnes dans cette salle qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas sauvées à cause du premier pilier, attire-les à toi, Seigneur. Fais cette œuvre dans leur vie. C'est en ton nom qu'on te prie pour toutes ces choses, Seigneur. Amen.